Bienvenue à la French Connection épisode 150. Cette semaine, je suis avec Steve.
Bonsoir tout le monde.
Avec Richer.
Salut.
Damien.
Bonsoir.
Vincent.
Salut.
Et Patrick.
Hello.
Grosse équipe ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été autant que ça. Fait que je pense que ça va être particulièrement comique. Fameux vlog, COVID, whatever. Restez chez vous, arrêtez tout ça en face des gens, lavez-vous. Bref, faites ce que c'est important, hygiène publique, santé publique. Fin des shameless plugs. Nouvelle, cette semaine au Québec, ce qui a brassé l'environnement, sans rien.
C'est moi ou c'était court sa présentation? Non, non, tu recommences, d'habitude c'est plus long, hein?
Ah, ben là, je voulais vous prendre une petite balle rapide, puis tout de suite des nouvelles, sans perdre de temps avec tout le fla-fla des shameless plugs. Mais là, de toute façon, techniquement, on a pris plus de temps. Au Québec, cette semaine, il y a eu une espèce de pseudo-scandale sur le fait qu'il y avait un IGE qui a commencé à surveiller la température de ses clients. Patrick?
Hey, ça a dégénéré, ça. Ouais, exact. Un IGE sur la rive sud de Québec qui a décidé de mettre une caméra thermale pour analyser la température du monde qui rentre dans le magasin pour voir s'ils font de la température. Ben, ça veut dire que peut-être qu'il y aurait le fameux virus. Donc, ils pourraient les refuser puis les envoyer à la maison. Donc, une belle ouverture pour faire de la surveillance au Québec. Et fait qu'on a fait un post là-dessus, puis on a analysé ça après. Je pense que c'est le post du Hackfest depuis 10 ans qui a le plus marché. c'est un peu intense. Mais tout ça pour dire que c'est ça, une ouverture sur la surveillance. Mais gros fail de l'entreprise qui gère ça et du IGA pour avoir, en fait, le tout vient d'un post Facebook du IGA qui est allé se vanter d'avoir mis ça en place pour la sécurité de ces personnes. Mais malheureusement, les caméras thermiques qu'on lit les experts sur le domaine, ben, ça ne marche pas pour gérer le COVID parce que le COVID se propage sans symptômes la majorité du temps. Et deux, trois jours avant, ceux qui ont des symptômes, ben, c'est deux, trois jours avant que ça se propage aussi. Fait que beau sentiment de fausse sécurité mise en place. Puis ce qui était drôle dans les commentaires Facebook de ce qui est arrivé, puis je pense qu'on est rendu à 140 commentaires et plus. Là. c'est qu'il y a du monde qui s'astinait. Ah, c'est pas grave, c'est juste une petite caméra, blablabla. Expliquer le point que c'est une ouverture. C'est pas le bug de cette caméra-là dans les IGA, mais s'il y en a dans tous les IGA, dans tous les métros, dans tous les magasins, dans tous les centres d'achat, etc., ben là, c'est là que le problème commence. Mais tout ça pour dire qu'après une centaine de commentaires, quelqu'un est allé dire « Ouais, mais moi, je trouvais que ça... Je me sentais plus en sécurité. » Je dis merci. C'est le meilleur commentaire que tu aurais pu dire. Tu t'aurais senti en sécurité, mais ça te donne absolument rien. Parce que si quelqu'un propage le virus sans symptômes, mais tu serais malade anyway. Si tu touches à quelque chose, si la personne parle proche de toi, whatever la raison. Fait que c'est un beau sentiment de fausse sécurité de mise en place. Mais par après, ce qui s'est passé aussi, ben, on a évidemment analysé l'entreprise, le logiciel, on a commencé à poser des questions sur le Facebook du IGA. Mais 20 minutes après les questions, mon post est devenu, le commentaire est devenu le plus populaire du thread et le tout a été supprimé, donc il a fallu prendre les screenshots et reposter le tout. Le IGA n'a pas voulu répondre à aucune question. L'entreprise non plus. Après un certain moment, ils ont répondu. Le IGA a dit que c'était pas de leur affaire, la sécurité de cette affaire-là, que c'était de parler à l'entreprise qui a fait le logiciel. Je sais pas, en général, quand on achète un logiciel et on l'héberge dans notre infrastructure, c'est notre sécurité qui compte en premier. Mais évidemment, il y a la sécurité du logiciel, mais la partie est des deux côtés. Mais du côté de la compagnie qui gère ça, qui a fait développer le tout, bien, évidemment, ils se vantent que c'est extrêmement sécuritaire, etc. Mais dès qu'on va voir plus loin dans les commentaires qu'ils nous ont fait, parce qu'ils nous ont écrit personnellement là, par courriel, disant que de toute façon, il n'y a pas de vidéo qui est enregistrée, il n'y a pas rien, tout est correct, on ne peut pas savoir l'identité de la personne. Fait que tu vas sur leur site web, parce qu'ils m'ont dit « voler mon site web anyway ». Fait qu'on est allé lire sur le site web, c'est marqué, ben, il n'y a aucune vidéo qui est prise et le point d'après, ben, les photos sont prises et sont enregistrées. Je suis comme, ben, merci de prouver notre point. fait que les photos sont enregistrées sur les serveurs, mais il n'y a aucune donnée, aucune information sur le fait est-ce que les données sont gardées, qui a accès, comment ça marche. Et plus qu'on a commencé à fouiller, ben, c'est aussi une entreprise qui est un peu... quand tu regardes ce que le patron fait, dans quoi qu'il investit, c'est un peu bizarre. Là. C'est très, très louche comme entreprise.
C'est un venture capital, ça. On peut le dire dans
ma... Ouais. Mais c'est ça. Dans le fond, il tire dans plusieurs directions.
Ouais.
Mais la personne qui a répondu, qui est comme le président ou quelque chose...
VP,
c'est pas la personne qui connaît le détail. Fait que c'est ça, c'était du PR. Ils m'ont pas fait de suivi après que je leur ai répondu. Fait que ça, c'est dommage là-dessus. Le IGA sont restés aussi à ce niveau-là en disant que c'était pas leur problème. Et ils ont déconnecté le soir même le système après le post. Fait que c'est ça, ça a dégénéré. On a même vu des sites web à la BuzzFeed québécois poster là-dessus. Fait que ça s'est rendu quand même loin. Mais je suis quand même content que le débat ait été ouvert pour parler de ça, parce que l'année passée, on avait parlé des caméras de surveillance.
Et de reconnaissance faciale.
Oui, exact. Qui est un très gros problème au Canada, mais que personne ne parle et qu'on a peu d'informations. Et c'était dans les commentaires, justement, du Facebook. Oui, mais c'est pas pire qu'une caméra de surveillance. En fait, les caméras de surveillance, c'est pas parce que il n'y a pas personne qui crie à tous les jours que tout le monde accepte que ça soit répandu partout, là. Puis justement, la reconnaissance faciale dans les magasins, autant Place Sainte-Foy et autres, il y en a partout, là. Fait que c'est un problème qu'on a présentement qui passe en dessous du radar. Puis comme on avait parlé dans le podcast l'année passée, généralement, les magasins vont mettre une affiche pour dire « Hey, la reconnaissance faciale, l'affiche est à peu près 2 pouces de large, elle est au niveau du plancher à l'autre bout du magasin où il n'y a pas de porte, où personne passe. »
La checklist, ça passe pareil, check. On l'a mis, Colin, là.
On l'a mis. Il n'y a pas un chat qui l'a vu, mais on l'a mis, là. Fait que il y a beaucoup de problématiques là-dessus. Puis ce qu'on checkait, moi et Steve, c'est que la commission de la vie privée et autres, et il ne se passe rien. Ils ne font pas d'analyse. C'est marqué, il y a un document quelque part, c'est dans l'autre podcast, que ça dit... Oui, il y a une analyse qui va être faite un jour. Ça fait quoi, un an de ce podcast-là? Ce document-là datait d'un an ou deux déjà. Il n'y a rien de fait encore. Ça fait qu'on est encore pogné avec la commission de la vie privée qui
non, Patrick,
n'est pas active.
Cette semaine, ils ont fait quelque chose pour de vrai. Puis, en passant, la commission d'accès à l'information du Québec a maintenant un channel Twitter qu'ils m'ont fièrement mis alors que je ne savais pas qu'ils l'avaient créé. Ça fait qu'ils travaillent toujours dans l'ombre. Le document qu'ils ont pondu pour répondre à qu'est-ce que tu apportes comme point, c'est COVID-19 initiative technologique. Et que ça avait été drafté, ça, mi-avril, mi-mars. Puis là, ils ont mis à jour le 5 mai dernier, qui inclut reconnaissance faciale, qui inclut caméra thermique, parce que justement, le problème s'est amplifié tel qu'il y en a qui ont descendu, je pense, dans le local, qui ont dit, messieurs, dames, devriez faire quelque chose. Puis, fait que pendant que Patrick jasait avec tout ce beau monde-là, ben, j'ai créé quelque chose sur le côté médiatique. Il y a un reportage qui a été lancé à TVA Québec. Ça a fait un tour d'une couple de stations de radio aussi pour justement amener le débat. Et c'est juste le catalyseur, là, l'épicerie, là, parce que le phénomène, il se répand partout. Exact. Et le but là-dedans, c'était pas de bâcher l'épicerie, c'était pas de bâcher cette compagnie-là de Lévis que je trouve encore là. Des entrepreneurs qui s'y prennent.
Non, mais leur produit est correct. Il ne marche juste pas pour ce virus-là.
Voilà. Puis c'est ça.
C'est deux problèmes différents.
Bottom line, c'est un faux sentiment de sécurité que ça donne. Parce que les gens, le message, ils ne l'analysent pas. Les gens voient l'écran, la caméra, on détecte COVID. Point. That's it. C'est pas vrai que ça détecte COVID. Mais non, mais les gens, ils ont la pensée populaire, c'est ça. Je l'ai retrouvé sur un paquet de forums et un paquet de places. Et c'est là que c'est le message n'est pas le bon. Sans l'absence de ligne directrice, c'est une note que c'est des accès bien raides.
Vas-y, Vincent.
Mais Patrick l'a bien dit aussi tantôt. Là, on parle d'un fournisseur d'un produit, puis on parle de l'exploitant. C'est la façon dont le produit a été vendu. L'exploitant, c'est lui qui cherche un objectif à atteindre aussi avec ça. Là.
Ah, ben oui.
Je ne veux pas bâcher le IGA là, en question. Mais comme Patrick, il l'a bien dit tantôt, puis la façon dont il s'est fait répondre ou pas répondre, il y a un gros manque de compréhension puis d'atteindre d'objectifs aussi là-dedans. Là.
Ben c'est là, je dis vite, ouais. Il n'y a pas de ligne directrice pour le commerçant, pour, comme tu viens de décrire, qui accepte le produit puis l'installe, tout comme le fabricant qui n'amène pas ces lignes directrices-là dans sa ligne de vente, puis lui, il veut juste vendre des boîtes.
Oui, mais wow. Il s'en fout parce que, comme justement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de politique, ben oui. Il n'y a pas rien, mais ben, il peut dire ce qu'il veut, que ça soit vrai ou pas, puis que ça passe. Là. Lui, son but, c'est de faire de l'argent.
Mais
que ce soit lui ou un autre. Là.
Hein? Mais il a dû faire un fantastique pitch de vente magique pour que IGA dise « OK, parfait, on va servir de cobaye, viens installer ça ici. Nous, on veut la sécurité de nos clients. »
Mais c'est ça, dire, aussi simple de même, Vince, c'est exact.
Ben, c'est ça, c'est que le pitch de vente versus probablement une incompréhension du résultat que le produit donne.
Ouais.
Ma blonde me parlait de ça tantôt, puis c'était comique, puis elle me montrait des images, puis je dis, tu sais, moi, la seule affaire que je vois là-dedans, là, j'en vois pas de problème. On voit pas le nom de la personne. La seule affaire que je pourrais voir, c'est tout simplement de la discrimination. Autrement dit, je suis derrière une personne qui a 2 degrés de plus. Ça y est, moi, la panique s'est installée. Merci, GA. Mais maudit, je suis à 2 mètres de quelqu'un qui a le COVID.
Mais va plus loin que ça aussi, tu sais. Un IGA ou peu importe un magasin de ce genre-là, oui, il y a de la sécurité au headquarter, là, mais dans le magasin même, là, la petite infra-réseau qui est là, qui a accès à cette machine-là qui est installée dans le bureau en arrière? Hein? 80% sûrement des employés, la moitié, soit 1 ou 12, peu importe le chiffre. Si quelqu'un va copier toutes les photos qui sont prises parce que c'est bien écrit sur leur site, ils prennent les photos de tout le monde. On s'en fout que tu ne saches pas l'identité de la personne, mais tu peux commencer à faire du suivi de statistiques et autres, de dire ben, cette personne-là était là hier, était là aujourd'hui, était là demain, elle a acheté ça, elle a acheté ci.
Partir ça sur le raisonnement que la personne, tu sais, des vedettes comme Damien, exemple, qui vont à l'épicerie du jour au lendemain, puis que là, ben, le doigt pointe sur Damien qui est potentiellement porteur de COVID. Ça fait en sorte que ça fait mal, ça, là.
Et puis, il faut aller un petit peu plus loin aussi, parce que pour le moment, on nous vend du bon matériel pour nous dire c'est pour vous sauver de la maladie, sauf qu'on a oublié un petit détail, c'est que ces caméras pourront aussi un jour vous montrer du doigt parce que vous avez un objet sur votre corps et qu'on pensera que vous êtes un voleur. Et qu'après, on va coupler ça avec une application comme à Singapour. On se rend compte que maintenant, pour rentrer dans des magasins et des hôtels, il faut obligatoirement installer l'application. En France, il y a un métro maintenant qui va filmer les gens pour voir le nombre de personnes qui ont un masque sur le visage. On a aussi l'aéroport de Paris qui vient d'annoncer qu'il testait une caméra de détection de la chaleur, d'abord en interne pour tester après sur les passagers. Mais toutes ces technologies qui, à première vue, sont sympas, une fois qu'on va les additionner, le livre 1984 de Orwell, ça va devenir « Oui, oui, à la plage ».
Tout à fait. Et pour compléter là-dessus, Pat, le commissaire à l'accès à l'information du Québec, en collaboration surtout avec le commissariat de la protection de la vie privée du Canada, ils ont émis une déclaration commune cet après-midi des commissaires fédéraux et provinciaux et territoriaux à la protection de la vie privée qui traite justement du contexte de COVID-19. Je ne passerai pas au travers, c'est quand même une demi-heure de lecture. Mais tout ça pour dire qu'il y a espoir. Là, ces agences-là, avec peu de pouvoir, et qui ont émis des avis. Puis à ce moment-là, il commence à avoir un semblant de sérieux à travers de ça, sans qu'ils aient les pouvoirs. Alors, les élus, il faut qu'ils donnent les pouvoirs à ces agences-là pour qu'ils puissent, à ce moment-là, faire quelque chose de concret et non pas juste symbolique à date, comme on peut voir. Mais c'est moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Il faut le souligner quand c'est bon pour qu'on puisse commencer à travailler avec cette idée de fond-là.
Il y a une réflexion, je te coupe, hein, parce qu'il y a une réflexion sur le chat qui est géniale. Ils ont dû arrêter les poulets chauds de sortir du magasin. C'est Claude qui dit ça. C'est vrai que tous les gens qui vont sortir avec un plat chaud, eh bien, ils vont être malades. Et on va faire quoi? On va leur tirer dessus parce qu'ils sont peut-être malades. C'est pas mal comme réflexion.
Puis il faut le dire, cette caméra-là, la caméra thermale, est dite par les experts non fonctionnels parce que ça analyse la température au niveau de la peau et non pas comme un thermomètre ou quelque chose de plus précis. Donc, si tu cours jusqu'au magasin, techniquement, tu fais de la température, ce qui est totalement niaiseux aussi.
Je vous préviens, je refuse toute caméra comme thermomètre dans la partie de mon corps. Je vous le préviens. Hein?
Merci de la précision. Mais pour finir sur ce sujet, parce qu'on a dit que c'est un débat qu'il faut avoir, puis c'est vrai, parce qu'on sait que l'entreprise qui a vendu ça au IGA sur la Rive-Sud est en train de vendre ça à plus qu'une quarantaine d'autres entreprises et est en pourparlers avec le gouvernement.
Yes. Il faut que ça ait lieu, le débat, avant qu'il soit installé, pour que, justement, on arrive à comprendre là, quelles seront les mesures à prendre, les recours surtout. Parce que, une fois qu'ils vont être installés, c'est comme à l'aéroport à partir de septembre 2001, mettons janvier 2002. Parce que, là, c'est pour prendre l'avion, il y avait les mesures A, B, C, D, il faut la suivre. Et il faut suivre encore aujourd'hui. Et comme Damien a précisé tantôt, là, tu as d'autres mesures qui vont rentrer. Tu vas être obligé de passer dans un scan thermique, sinon tu ne rentres pas sur l'avion. Fait qu'imagine, à cette heure, tu ne pourras pas aller faire l'épicerie si tu ne passes pas au scan thermique. Tu ne pourras pas aller dans tel bureau du gouvernement si tu ne passes pas au scan thermique.
C'est comme tu dis, la belle sécurité des aéroports, que le taux d'efficacité est en bas de 2 %.
Ben oui.
C'est un théâtre de la sécurité, puis c'est un peu les arguments qu'on apportait là-dessus. C'est dommage de voir ça en branle.
Mais bon. Citoyen qui n'a dit mot consent, levez-vous, parlez à vos députés, vos élus, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse savoir.
Prions le Seigneur.
Thoughts and prayers.
Rendons gloire à Vince.
Fâche-toi, bon. Vince, fâche-toi.
Non, il a pas l'air dans un mode fâche.
Non, je sais, c'est drôle.
Bon, basculons à d'autres nouvelles. De toute façon, on risque de battre le c'est pas le premier épisode depuis COVID qu'on va battre le sujet de la vie privée qui est complètement détruit par rapport à ce qu'on est habitué. Ces mesures de choses viennent complètement envahir et nous donnent un faux sentiment de sécurité. Puis c'est ça qui est probablement le plus terrible dans tout ça. Basculons vers des choses peut-être plus intéressantes. La journée du mot de passe, le 7 mai.
Lol.
Oui, il faut en parler. Tout le monde a... Je suis d'accord avec toi, Damien. Tu sais, ça, c'est laughing loud de peur à propos d'un sujet comme ça, mais il faut qu'on batte le fer pendant qu'il est chaud. Tout le monde a des mots de passe. Et aujourd'hui, dans ce beau monde, on a tous un portail, mais je devrais dire 100 quelques portails avec lesquels interagir, que ce soit pour les finances, pour les achats, pour n'importe quoi. Et donc, utiliser un même mot de passe pour tous les sites, c'est pas bon. Utiliser un mot de passe facile, c'est pas bon. Et... rappelons-nous, quel est le mot de passe numéro un encore dans ce monde en début de 2020? Messieurs, dames?
Prout?
Mais non! C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça persiste. Et Password, heureusement, cette année, Password est passé du deuxième rang au quatrième rang. Donc, il y a une certaine amélioration. Ça me donne espoir en la société pour qu'on puisse éventuellement s'en sortir. Mais fondamentalement, c'est ça qui arrive. Il faut mettre des phrases complexes. Parce qu'un mot de passe, à la base, là, c'est multifacteur, comme on sait. La carte de guichet est deux facteurs d'authentification. Et de plus en plus, on l'exige sur les comptes en ligne pour justement minimiser la possibilité que quelqu'un, juste avec un des facteurs, puisse entrer et exploiter quoi que ce soit. Et je pense toujours au compte de banque, là, que c'est souvent l'attrait numéro un pour les malfaisants. Donc, à ce jour, le mot de passe, révisez vos mots de passe. Assurez-vous qu'ils sont d'une bonne longueur minimale de 12 caractères, complexes, alphanumériques, avec des chiffres, des ponctuations. Et ultimement, vous avez mal à la tête de vous en souvenir, bien, considérez l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. Ça risque de vous aider grandement pour être capable, donc, d'avoir une bonne discipline et surtout une bonne cyberhygiène avec ces mots de passe-là.
Mais tant qu'à parler de mots de passe, il y a une... il s'est passé quelque chose chez Vincent qui nous a fait bien rire.
Mais comme d'habitude, je ne regarde pas. Fait que...
oui, mais le NSO Group est tombé justement sur un serveur sans mot de passe.
Oui, totalement ironique comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai voulu mixer les deux. La compagnie NSO, le groupe NSO plutôt d'Israël, c'est une compagnie qui est quand même hautement technique dans la façon d'aller épier la vie privée des gens. Et dans un contexte de COVID, il n'y a pas juste NSO Group qui ont lancé l'initiative d'avoir des applications pour être capable de faire la documentation des gens où ils vont à partir avec le téléphone cellulaire, donc pour être capable de comprendre si la distanciation, pardon, elle est respectée et documentée où les gens vont se promener un peu sur la rue. Et c'est ça qui est ironique, ce serveur-là, en Allemagne, chez AWS, s'est retrouvé sans mot de passe de la base de données, pas le front. La partie frontale était avec mot de passe, tout ça, mais la partie database, la base de données en arrière, sans mot de passe en clair. Donc, pour une compagnie qui dit maintenant qu'ils veulent aider à la COVID-19, mais ne pas respecter la vie privée parce qu'ils ne protègent pas l'information, c'est un petit peu ironique. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est vraiment une compagnie de multimilliards de dollars et faire en sorte qu'il aurait dû y voir beaucoup mieux que ça. Quoique, aux reporters, ils ont montré qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça faisait, etc. Mais ça laisse froid dans le dos parce que toutes les données cumulées, mais là, il y avait quand même l'Arabie Saoudite, le Rwanda et il y a un autre pays qui m'échappe, je crois que c'est, c'est l'Israël, qui à ce moment-là avait de la documentation de qui avait repéré sur le terrain et qui suivait. Alors, c'est pas juste anodin, c'est juste encore une fois sans information nominative, mais que l'information était présente. Donc, s'il y a des compagnies sérieuses avec un gros budget qui ne sont pas capables de faire le minimum en termes de protection d'information, quelle qu'elle soit anonymisée, ben, on peut douter après ça des processus, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire pour de vrai après ça en arrière.
Effectivement, puis tant qu'à parler d'infiltration comme ça, la société BTP s'est fait infiltrer. Damien?
Ouais, alors en fait, ça s'est passé cet après-midi. J'ai deux. Alors, on ne va pas les citer, parce que je me dis qu'à un moment, je me suis dit que j'allais les citer, et après tout, ça pourrait leur faire plus de mal qu'autre chose, sachant que c'est toujours en cours au moment où on se parle. Il y a eu plusieurs attaques, encore une fois, d'opérateurs de ransomware, donc ce n'est pas ceux dont on parle d'habitude, hein, c'est d'autres, qui ont attaqué et qui se sont réattaqués de nouveau à des sociétés de BTP. Alors, il y en a une qui est à plusieurs filiales, à Laval, par exemple, qui est donc peut-être Québec, plus d'autres du côté plus anglophone du Canada, et aussi en France, encore une fois, des sociétés de BTP qui sont attaquées, et il faudrait peut-être aussi que ces sociétés-là prennent plus attention, je pense, de leur informatique, parce qu'elles ont des clients, elles ont des informations qui peuvent être sensibles. Oh, je prends juste l'exemple d'entrepôts ou de lieux qu'elles sont en train de mettre en place. Et donc, c'est intéressant, malheureusement, parce que c'est au moment où on se parle. Et comment j'ai eu l'information, c'est comme j'ai infiltré pas mal de groupes, dont ce groupe-là qui m'autorise à leur parler. Je ne vous cache pas que c'est bonjour, c'est vous. Et voilà les seules réponses auxquelles j'ai droit. Mais sauf que, encore une fois, ils sont en train de diffuser les informations qu'ils ont volées, ces pirates. Alors, le gros problème, c'est qu'on a des gens qui rançonnent, qui infiltrent, donc qui ont volé toutes les infos, qui chiffrent. Et comme ils savent qu'ils ne seront plus payés, parce que maintenant, ils sont vraiment à cette nouvelle étape où ils savent qu'ils ne seront plus payés de leur rançonnage, eh bien, ils diffusent d'entrée de jeu au moins le tiers des informations qu'ils ont volées pour faire plier la personne qui est en face et faire plier les clients. Parce que maintenant, il y a une nouveauté, mais ça, tous les experts en parleront dans 2 ans. Hein. Nous, on en aura parlé avant. Mais là, la nouvelle mode, maintenant, c'est de contacter aussi les clients en disant, ben voilà, on a vos informations. Est-ce que vous souhaitez qu'on les diffuse avec le packaging qu'on a volé à votre client Y? Et puis, ben voilà, ils ont trouvé une nouvelle manne d'argent. Celui qui est rançonné, plus ses clients qui pourraient donc, du coup, se retrouver dans le même package malveillant. Et donc, bah, du coup, ils font payer tout le monde. C'est une pure merveille. C'est assez impressionnant. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que là, ça a vraiment visé beaucoup de BTP. Ça a visé le numéro 1 des fournisseurs de la banque américaine qui s'est retrouvé aussi avec toutes ces données en train d'être, qui sont en train de fuiter. Soyons très clairs. Les mecs dans certains dark web qu'ils ont mis en place, auxquels, pour pouvoir accéder, il faut certaines possibilités. Mais en tout cas, voilà, ça balance. Et puis là, maintenant, ils font des packages. Hein. Là, pour l'exemple de la banque, cette société qui s'occupe de toutes les tenues et tous les objets pour la poste américaine, eh bien, ils ont attaqué des ordinateurs de plein d'employés. Et donc, du coup, ils sont en train de diffuser ordinateur d'employé par employé, en mettant les noms et les prénoms. Là, les exemples que j'ai récupérés là cet après-midi, il y a par exemple les fiches internes du chef de service qui mettait un avertissement à ses employés ou à ses collègues. Donc du coup, on sait pourquoi, on sait quand, etc. etc. Sachant qu'il y a peut-être des employés qui ne savent même pas que du coup, on leur a tapé dans les jambes et qu'ils sont pris un blâme. Ça va devenir un bordel tout ça. Mais bon, continuez à ne pas écouter, ne vous inquiétez pas, les pirates, ils ont des oreilles qui sont grandes comme ça. Les miennes aussi.
C'est toujours aussi épeurant, ces affaires-là, ça n'arrête pas. Puis on le constate en cas de COVID, l'augmentation des gens qui s'informatisent à une vitesse accélérée, tout croche, mettent à risque encore plus leurs informations. C'est, parce que je le vois dans mon entourage, c'est magique. L'info magique, ça permet beaucoup de choses, ça permet le télétravail, ça permet ça. Mais si on le fait mal, ces informations-là sont disponibles aussi pour les malveillants de façon massive et de façon non contrôlée. Donc, c'est une manne, malheureusement, une manne pour les malveillants. Oui, Damien?
Et tu as complètement raison. Petit détail aussi que j'ai remarqué là dans les analyses depuis 5-6 mois, c'est qu'ils ont un malin plaisir, c'est de récupérer, vous savez, ce petit dossier personnel qu'on met dans son ordinateur professionnel. Et donc, du coup, dans les dossiers que j'ai pu repérer, donc il y a la société Damien, voilà, et moi, je suis l'employé de la société Damien, et dedans, j'ai mon petit dossier avec ma vie privée, ou peut-être la petite entreprise que je suis en train de créer dans mon coin et que personne n'est au courant, sauf que maintenant, c'est en train de fuiter. Donc, imaginez votre patron qui découvre que pendant votre temps de travail, vous faites autre chose que travailler. Pure merveille. Ça devient un bulldozer, ces attaques, ça devient fou furieux.
Ouais, la capacité, elle est complètement phénoménale. Je pense que les gens ne mesurent pas. Il y a peu de gens qui mesurent. On a parlé en entrée de jeu, le IGA qui a mis une caméra thermique en pensant. Puis, le IGA lui-même, j'imagine qu'il y avait quand même une initiative bienveillante. Ça l'a juste backfire, là. C'est juste parce qu'il est comme mal mesuré, puis ça a tout explosé. Les gens ne mesurent pas l'usage des technologies, à quel point ça peut venir leur mordre sévèrement. Puis, tout ce qui est écrit, tout ce qui est dans un courriel, tout ce qui est dans des documents, dans une compagnie, peut être divulgué à tout moment. Puis c'est un autre appel aussi. Faites attention à ce que vous écrivez, parce que vous ne savez pas qui et quand va diffuser cette information-là, puis ça peut être dans un endroit assez inusité, comme ce qui est mentionné là, entre autres.
N'oubliez pas que Snapchat, ça ne s'efface pas.
Il n'y a rien qui s'efface. Dès qu'on est dans l'informatique, il n'y a rien qui s'efface.
On a 5 secondes, Steve, c'est pas vrai.
Les paroles s'envolent.
Et les écrits restent. Donc, tout ce qui est écrit dans les moyens, effectivement, ça reste. Fait que soyez très, très, très prudents. Et là, on ne parle même pas du courriel envoyé en pleine boisson à minuit le soir à son ex parce qu'on était en regret, puis machin et tout. On parle de documents d'affaires, de business qui, dans ces conditions-là, doivent aussi vont rester de façon éternelle dans l'univers.
Moi, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une rehausse du nombre de S3 buckets ouverts à cause du COVID.
Je pourrais dire qu'à l'heure actuelle, l'information que je dispose, parce que tout le monde s'est garaché entre autres sur Azure, puis c'est le suivant dans lequel je suis, massivement. Et la sécurité qui est mise sur ces tenants Azure-là est généralement insuffisante pour affronter le malveillant moyen.
Ouais, ils se sont
du gros malveillant, pas du malveillant moyen.
Ils se sont pas fait attaquer publiquement comme mettons le S3 et autres d'Amazon, qui au début était quand même très ouvert. Puis à cette heure, si tu ouvres un bucket, là, est en rouge, faites attention. Tu cliques sur le droit d'accès, faites attention, ils l'ont eu le message, mettons.
Oui, Richer.
Oui, dans le fond, justement, pour revenir sur le S3, tu sais, c'est bien protégé de base. Et après ça, c'est assez compliqué de pouvoir, le mettre trop ouvert, comme tu dis. Justement, il y a beaucoup de mentions, beaucoup de vérifications, beaucoup de choses qui font en sorte que c'est protégé pour ça. Mais il y a aussi le principe que les gens connaissent tellement pas ça, qui vont se mettre à mettre des policies, qui vont trouver un peu partout, qui vont mettre ça trop ouvert, justement, parce que ça marche pas. Ils vont finir par faire la même chose que, bon, le système comptable sur le petit commis dans le coin, ça fonctionne pas, fait qu'il faut le mettre administrateur pour qu'il soit capable d'écrire dans le programme file. C'est la même affaire. On finit par avoir des solutions bidons pour pouvoir régler des problèmes, quand en réalité, il suffisait juste de pouvoir rechercher un petit peu plus le détail pour savoir comment régler le problème. Mais donc, c'est un manque d'éducation. Manque d'éducation, comme on avait déjà parlé dans d'autres podcasts, mais c'est un manque d'éducation.
Hey, moi, je pensais un petit peu out of the box comme ça. Là, c'est intéressant ce que vous venez de dire. La période COVID, la manne vers justement les utilisations cloud pour accélérer le déploiement des outils de partage, de collaboration. Pensez-vous, OK, je vais reformuler ma question parce que la réponse est dans la question. Le nombre de compagnies malveillantes, là, je vais dire compagnies malveillantes, fausses compagnies malveillantes, qui se sont introduites justement dans ce canal-là pour venir envahir ces environnements-là sans qu'on le sache. Oh, Steve, intéressant. Intéressant le jeu.
Tu es en train de parler de Zoom, toi, là?
Non, je parle pas de Zoom. Nicolas vient de parler d'Azure. Microsoft a justement un outil de collaboration qui semble, tout d'un coup, depuis un mois, être l'outil de collaboration par excellence, recherché, etc., etc. mais qu'il y a du monde malveillant qui soit passé par ce canal-là pour passer sous le radar, justement, s'introduire, puis tranquillement, pas vite, étendre leurs mauvaises tentacules, etc. Ah,
c'est sûr, parce que, tu sais, si tu regardes, le Nick faisait référence à ceux qui n'ont pas beaucoup de skills, que c'est facile là, de faire ce type d'attaque-là, mais ceux qui ont un peu plus de talent, c'est du long terme. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Ils mettent quelque chose là, puis pour rester stealth, ils ne touchent pas pendant quelques mois, quelques semaines. Et éventuellement, ils vont commencer à faire du recon, à ramasser des données de manière lente, puis après ça, ils vont se propager. Fait que là, ça a l'air réel. Tu sais, t'as pas, ah, on n'a pas d'intrusion. Il y a juste un poste qui a une alarme bidon, puis il y en a juste une du correct. Okay. Puis des fois, c'est zéro parce qu'ils ont eu le temps d'analyser qu'est-ce que c'est le poste, qu'est-ce que c'est le serveur, qu'est-ce qui passe sur la machine, le trafic réseau, etc. Fait que c'est facile de venir stealth en long terme.
Ouais, puis donc, pour continuer avec ça, j'avais eu des cas de machines justement qui étaient contaminées par des rançons logicielles. Et la façon de pouvoir se faire décrypter les données, c'était laisse tes machines telles quelles, laisse tes ports ouverts, on va revenir déposer tes fichiers sur ta machine. C'est comme ça qu'on va communiquer.
C'est comme le Père Noël, ça.
Oui, exactement. Il passe par la cheminée, par le port 22. Puis, donc, il finit par pouvoir entrer là.
Et
c'est la façon. C'est la façon qu'il récupérait les données. Et donc, c'était la seule façon. Donc, contacte pas la police, fais ça, laisse tes ports ouverts. Donc, ça prouve absolument rien qu'ils ne vont pas remettre d'autres choses ailleurs pour après, par quelqu'un d'autre. Puis, il a dit, ah, c'est pas nous autres, bien sûr. C'est quelqu'un d'autre. Anyway.
Ouais. Puis pour finir là-dessus, mais un des points que j'ai vu récemment que j'ai trouvé très drôle, puis j'ai eu un genre de webinaire sur ce sujet-là, de Incident Response, c'est il y a beaucoup d'entreprises et de produits qui bannent les pays. Disant, on banne la Chine, on banne la Russie, on est protégé un peu en quelconque. Mais quand tu commences à regarder les attaques, les OTP et autres, APT, excuse, MITRE ATT&CK, toute leur liste, la majorité, c'est des IP des États-Unis qui attaquent les États-Unis. C'est pas la Russie. Ben oui, c'est le pays en tant que tel qui le fait, mais ça provient pas d'ailleurs. Fait que c'est bloquer un pays, à part là qu'on parle de déni de service puis de trafic inutile. C'est pas un concept de sécurité utile pantoute, là. C'est pas du threat intelligence, c'est pas de l'analyse de risque qui fait du sens pantoute.
Dites-vous qu'il faut pas craindre ce que vous savez aujourd'hui, c'est ce qu'on va apprendre dans 6 mois ou dans 3 ans.
Entre autres, puis c'est tout le point du fait que, là, il faut faire la nuance très importante, on l'a fait déjà à plusieurs reprises, entre la sécurité de Azure pour lui-même et la sécurité du monde qui utilise Azure est deux choses. Azure ou Google ou AWS, eux-mêmes, pour leurs propres infrastructures, sont vraiment le top. Ils sont pratiquement impossibles à hacker. Par contre, tous les clients, puis là, Richie l'a dit ouvertement, qui viennent twister la sécurité, puis finalement, ben, ils l'enlèvent. Ça fait chier, la sécurité. Ça m'empêche de travailler comme j'aimerais travailler. Parce que moi, j'ai des mauvaises pratiques de travail, puis moi, je fais n'importe quoi. Fait que je veux que ces mauvaises pratiques-là se répliquent dans mon AWS, dans mon tenant Azure ou Google. Fait que je vais amener avec moi cette information-là. Puis c'est intéressant parce que là, tout ce mouvement massif actuellement vers l'info nuagique amène ces comportements-là. Et les gens oublient, l'info nuagique, c'est exposer Internet 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Et tous les malveillants savent que ça existe et tous les malveillants vont l'essayer. Fait que si vous avez une brèche qui s'est cachée anciennement dans un système caché dans l'intérieur de votre organisation et du coup, vous avez décidé de le mettre dans le nuage, ben bingo, vous êtes exposé à tous ces malveillants qui ont juste ça à faire de leur vie. Bref. Fait que là, passons à l'autre nouvelle. Puis d'ailleurs,
Non, j'ai une question. Oui. J'ai une question pour les spécialistes. Les spécialistes.
C'est pas pour nous autres, ça.
Non. On a une belle infrastructure. Je fais l'image, là. Je caricature. On a une belle infrastructure. Il y a un APT d'installer. Le compte à rebours n'est pas atteint. On s'en va dans l'info nuagique. Ah ouais, on upload chez GCP. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que GCP a un mode, je parle de GCP, ça peut être AWS, Azure, ils ont-tu un mode de filtrage quand on pitch l'infra là-bas qui va dire, par exemple, « Hey, le grand, un petit peu, là. OK, je vois des belles faces, je vois des mains, je vois des saluts inversés. OK. OK. Ça veut dire, là, vous êtes en train de me dire que ma question de tantôt n'était pas aussi mauvaise que ça. Là, je viens dans un cas concret qui s'est passé dans les 8 dernières semaines. Il est fort possible qu'il y a de l'infra qui a été tiré dans l'info nuagique dans l'univers connu et puis qui est probablement... En fait, il n'est pas probablement... Cet univers-là est rendu infecté, là. Merci. Ça répond à ma question.
Ça dépend si tu as beaucoup d'argent ou pas.
Ça dépend ce que tu es pris encore. Il y a pas quatre choses. C'est sûr qu'ils ont des filtres minimaux, mais est-ce que ces filtres-là sont suffisants pour intercepter ce que tu mentionnes? C'est pas clair. Après, mon attention, ça va être riché. C'est que probablement que si c'est du shift and lift, c'est-à-dire qu'ils ont pogné puis ils ont juste garoché tel quel dans l'info nuagique, tu prends ton problème, tu fais juste le mettre dans un environnement plus gros et plus puissant. Oui, Richer.
Donc ça, si tu prends par exemple, encore avec Amazon, si tu installes ta VMware et tu veux transférer tes VM, tu t'installes un tunnel avec HCX qui va être capable de te permettre de transférer tes VM avec un tunnel IPsec, mais qui va avoir un Layer 2 à l'intérieur. Donc tu vas être connecté Layer 2, VM à VM, tu transfères d'un vCenter à un autre, il n'y a rien de filtré.
C'est clair.
Et là, Steve nous partage une belle structure d'attaque APT, quitte à ce qu'il nous... Ça vient de Forcepoint WebSense, fait qu'on, à la limite, on mettra dans les show notes, puis c'est très intéressant ce qui est mentionné là. Si vous pouvez le voir en live, puis pour ceux qui écoutent en différé, ben, on essaiera d'avoir le dit diagramme qui est, ma foi, très intéressant. Puis, profitons pour changer de sujet. L'entreprise chinoise Mass Holding a été victime d'un rançonnage quand même.
Oui, c'est intéressant aussi parce que cette société chinoise est quand même le numéro un mondial du textile en Asie du Sud. Ils ont une filiale à New York, ils ont une filiale à Hong Kong, au Sri Lanka, et ce qu'il se passe, c'est entre guillemets, on pourrait dire un rançonnage, bon, ok, un de plus. Sauf que là, ça touche une supra entreprise et les pirates que j'ai vus il y a deux jours, les mecs sont en train de dire, ah ben, en fait, grâce à eux, on a des informations sur Nike et sur Victoria's Secret. Alors, j'avoue que moi, je suis plus intéressé par Victoria's Secret que par Nike, mais ça montre, et c'est pas parce que je veux de la dentelle, les gars, on se calme, hein, mais c'est juste que par ces attaques par rebond, et puis à faire confiance à des gens qui vous disent, vous savez, comme dans ce dessin animé de Disney, et confiance, eh bien là, on se retrouve avec des données. Et donc, je trouvais intéressant, c'est que là, on tape pas, sans être péjoratif, dans la petite PME ou la petite entreprise du coin. On tape dans un numéro un mondial qui va impacter d'autres sociétés qui vont être elles-mêmes impactées et peut-être viser leurs employés et autres. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle, parce que voilà, on fait tout fabriquer un petit peu dans des pays qu'on ne maîtrise pas du tout. Hein. On l'a vu encore une fois avec ce qui s'est passé côté sanitaire. Alors, côté informatique, tout leur donner en fermant les yeux comme des trois petits singes. Je n'entends rien, je ne dis rien, je ne vois rien. On leur laisse totalement toutes nos billes, sauf que s'ils perdent les billes, ça pique.
Ça fait plus que piquer quand les billes sont perdues là, dans ce contexte-là. Puis tant qu'à parler justement de Victoria's Secret, il y a des sites pour adultes aussi qui ont été un peu malmenés.
Alors en fait, la petite histoire, c'est que, bon, vous savez ce que je fais dans la vie réelle, je suis tombé sur une discussion de pirates dans un espace VIP, enfin voilà, ils ont leur espace VIP maintenant, il faut payer pour y rentrer, etc., sauf quand ils font des erreurs, et ce qui est bien, c'est que s'ils font des erreurs, ben, ils vont pas déposer plainte, donc c'est toujours drôle d'y rester, toujours est-il qu'ils ont créé, eh bien, c'est simple, un espèce de eBay de la donnée piratée, mais qui n'est simplement dédié au portail de rencontre, le dating. Alors, ben voilà, c'est simple, hein. Les gars, au moment où j'y suis allé, ils ont ouvert une boutique qui n'est dédiée qu'à une... Enfin, que... aux 20 plus gros sites dédiés aux rencontres. Alors, il y avait quoi? Je ne vais pas les citer parce que, un, je ne les visite pas, mais du coup, j'ai oublié les noms. On vous les donnera. Hein. Si vous êtes intéressé, on vous refilera le compte de Nicolas, comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Mais plus sérieusement, c'est les 20 plus grands sites. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Eh bien, en fait, ils vendent tous les accès clients. Alors, je n'ai jamais dit que les sites avaient été piratés. Hein. Je pense que certains ont tellement d'argent et de moyens que normalement, ils ont des red teams, ils ont des gens qui sont bien là. D'ailleurs, Patrick, tu fais des tests là-bas ou pas ? Est-ce que tu passes des comptes ? Mais plus sérieusement, ils ont censé avoir du monde. Donc là, d'après ce que j'ai pu détecter, c'est surtout des informations qu'ils ont récupérées par phishing. Aujourd'hui, ils ne se contentent pas d'aller piquer des bases de données qui viennent de Pierre, Paul, Jack, qui sont connues depuis 20 ans. Non, non, ils ont clairement des phishing dédiés à des gens dont on sait qu'ils visitent ce genre de site, voire même des sites beaucoup plus pornographiques. Et puis, ils ont créé leur boutique. Donc, du coup, ça, pour du social engineering, voilà, bah, par exemple, ou de l'OSINT. Bon, cette année, on ne sait pas s'il va y avoir le Hackfest. Donc, pour le concours de le CTF de social engineering, on verra bien. Mais dites-vous que ça, c'est une entrée loin d'être négligeable. Maintenant, il y a des boutiques dans lesquelles je peux taper un nom, le mien par exemple, voir si je suis dans ce genre de boutique dédiée aux rencontres. Tiens, le gars, il est tout seul au Canada, mais pourquoi va-t-il faire une rencontre amoureuse alors qu'il est marié, etc. Mon Dieu, mais il y a certains mecs ou certaines dames qui vont chanter comme des oiseaux si jamais ils se font au synthé, surtout dans le social engineering. Donc voilà, donc je trouvais ça intéressant parce que le pirate aujourd'hui, il a clairement compris que chaque donnée sera une niche marketing parce que ça rapporte des milliers d'euros. Je prendrai le dernier exemple de ce qu'a fait Europol la semaine dernière où ils ont arrêté 5 gars en Suisse et en Pologne qui vendaient de la donnée. Pas de la donnée que Troy Hunt a aussi, hein, sauf que les mecs ont été arrêtés et on a découvert qu'ils avaient dans leur stock 600 000 euros, donc un peu plus de 800 000 dollars canadiens, de points de fidélité à vendre. Vous vous souvenez des points de fidélité dont on a parlé il y a 6 mois, il y a encore quelques semaines, où certains sur les réseaux sociaux ou même des grands patrons d'entreprise disaient « Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont faire des points de fidélité, les pirates ?» Eh ben voilà, ils te les mettent bien profond.
Ouais, c'est bien évident, c'est ça. Ce n'est qu'un retour à ce qu'il dit, plus à maintes reprises. On n'a malheureusement pas fini, puis en plus, c'est un peu un rappel de Ashley Madison il y a quelques temps de ça, qui était quand même assez violent. Puis tous ces gens haut placés qui se croient au-dessus de tout et qui consomment ce genre de site-là pour un peu mettre de piquant dans leur vie, ben faites attention parce que vous allez vous faire mordre à des endroits que peut-être vous n'apprécierez pas dans ces contextes-là.
Alors, il y a ce contexte-là, effectivement, de ceux qui veulent... Ça, c'est leur problème, c'est leur vie, de vouloir tromper qui ils veulent. Je pense aussi aux gens qui sont plus malheureux, qui sont plus dans la solitude, et qui, du coup, comme déjà, ils sont fragilisés par cette solitude de la vie, pourraient devenir, en plus, de potentiels mules, de potentiels porteurs de malveillance numérique, parce qu'il y a de la manipulation. Alors, soit manipulation indirecte, « Ah, je vais tomber amoureuse de cette fille ou de ce gars parce qu'il m'aime, et je l'ai rencontré par ce biais-là, sauf que j'ai trouvé le moyen de le contacter, moi le malveillant, ou tout simplement réussir à infiltrer une personne qui est mal dans sa peau et puis de la perturber psychologiquement encore plus important. » Donc voilà, c'est des nouvelles boutiques, des nouveaux outils qui sont encore cette fameuse nouvelle lame que les pirates sont capables d'inventer.
C'est assez terrible dans l'ensemble. Passons à la nouvelle suivante. Au niveau, les Iraniens auraient infiltré... ils auraient infiltré des banques. Excusez, j'ai mélangé deux nouvelles.
C'est ça. Nico, il prend les infos, il fait un check-up comme ça. Il nous fait une petite picolada et après, il va la boire, il va être complètement bourré. Ouais, non, c'est intéressant. Alors là, vous avez vu, j'ai fait une petite thématique ransomware parce que du coup, ça permet de montrer toutes les ramifications maintenant que le rançonnage, ces rançongiciels, peuvent avoir dans la vie de nos vies personnelles, mais nos vies d'entreprise. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que, souvenez-vous, il y a 2 ans, on expliquait déjà que j'avais des preuves qui expliquaient que les gars qui font du rançonnage ont des catalogues, comme les scammers, vous savez, ces arnaqueurs à l'amour, où ils ont toute Tati Lulu ou Tonton Lulu, et ils ont toute sa vie parce que ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, qu'à partir de là, ils vont les arnaquer à l'amour. Eh bien, Maisie a prouvé, enfin publiquement, alors je dis enfin parce que du coup, ça permet aussi de mettre les preuves de ce qu'on a porté sans que nous, on puisse en apporter des preuves pour éviter de laisser fuiter nos sources ou nos enquêtes ou tout ce qu'on veut. Mais là, ils viennent d'annoncer que après avoir attaqué une banque du Costa Rica, ils expliquent très clairement qu'en fait, ils avaient infiltré il y a maintenant quasiment 1 an, qu'ils avaient visité, qu'ils s'étaient servis, et que ben là, pour se venger, ils sont revenus en février, et puis là, ils ont lancé toute leur malveillance de maître chanteur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils prouvent qu'ils ont un catalogue, qu'ils ont des cibles, qu'ils ont visitées il y a 1 an, il y a 2 ans. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je ne m'inquiète pas de ce que je sais aujourd'hui, je m'inquiète de ce que je vais apprendre dans 6 mois, parce qu'il sera trop tard. Ben, c'est ce qu'ils font. ben, ils sont revenus 6, 7, 8 mois plus tard. Et puis, ben, ils ont vu que rien n'était corrigé. Et puis, ils ont tapé. Sauf que là, ils annoncent 11 millions de données bancaires. J'ai pu les interviewer cette semaine parce que j'ai la chance de savoir à quel moment je peux les joindre. Il faut juste qu'ils me donnent l'autorisation de pouvoir leur poser. Mais là, ils m'ont dit très clairement qu'il y avait de la donnée de Français, il y avait de la donnée de Canadiens, et il n'y avait pas que des données d'Américains sur lesquelles ils avaient expliqué sur leur site. Sauf qu'ils en ont 11 millions. Et ces enfoirés-là, pardon du terme, ils vont les diffuser. Je vais être très clair avec vous. Ils vont les diffuser. Donc, c'est un vrai gros problème parce que je ne vous cache pas toutes les NAS. Donc, les NAS, pour ceux qui ne sont pas d'Europe, ce sont ce numéro social qui est nous, un numéro et des lettres qui vont dire, bah, tiens, Damien, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E. Eh bien, ça, ils diffusent. Les 16 groupes de rançonnage, en tout cas, que je surveille, que je cybersurveille, ils s'en foutent comme de l'an 40. On n'est que de la chair à canon. On n'est que des numéros qui peuvent potentiellement leur apporter de l'argent. Et quand je vois ce qu'ils diffusent, ça devient fou furieux. Je me rabâche un petit peu, pardon du terme, c'est français, ça veut dire se répéter. Mais voilà, le rançonnage, ce n'est pas qu'une machine qui a été chiffrée avec une entreprise qui va vous dire dans un communiqué de presse « Oh, on a tout contrôlé, n'ayez pas peur, on était là pour tout protéger. » Mon cul, ouais.
Ouais, mettons. Effectivement, puis ça revient, c'est un cycle, puis les entreprises, faites attention parce que ça va vous arriver invariablement. Puis c'est moins, puis là, dans les nouvelles précédentes, on voit clairement une escalade, ils se balancent. La seule chose qui les intéresse, c'est extraire de l'argent. Ils vont trouver tous les moyens pour extraire de l'argent de vous autres. Donc, faites attention, là, on parlait de la fraude à l'amour aussi. Mais ils vont extraire de l'argent comme ça. C'est l'argent qu'ils veulent. C'est très grave. Et en tant que parler d'argent, justement, il y a un groupe de l'Europe de l'Est qui a été capable d'attaquer les distributeurs d'argent.
Bon, ben, j'ai failli boire un coup, hein, OK? Alors, en fait, la petite histoire, ce qui est très, très intéressant, c'est l'ANSSI, vous savez, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France, qui vient de sortir un rapport au moment où on se parle. Comme ça, on est vraiment du très, très frais pour nos auditeurs de la Fresh Connection. Et ils ont sorti, en fait, toute une étude sur le groupe Silence. Alors, le groupe Silence, pour la petite information, c'est un groupe de pirates. Alors, on les présume dans les pays de l'Est, parce qu'il y a des pistes qui font dire qu'ils sont dans cette zone-là. Sauf que les pays de l'Est, hein, c'est quand même énormément grand, donc voilà, ça peut être n'importe qui, ça peut même être un Québécois ou un Français qui est à un moment donné là-bas. Bon, là, j'exagère un petit peu, mais voilà. Et cette étude est très intéressante parce que justement, ça montre ce groupe Silence qui a trouvé les moyens informatiques, numériques, de malveillance humaine et technologique, de pouvoir accéder aux distributeurs de billets, par exemple, et de pouvoir en extraire des sous. Et donc, du coup, je trouvais l'information intéressante, c'est que souvenez-vous, il y a 2-3 mois, pas très loin d'ici, donc à Québec, ces distributeurs de billets qui se sont retrouvés vidés par on ne sait trop quel tour de magie. Donc voilà, et donc cette étude, vous retrouverez le lien sur sécurité.fm qui vous permettra de voir et de lire. C'était très intéressant parce qu'une agence gouvernementale qui diffuse une information qui reste sensible, donc ça permet de montrer aussi certains éléments. Ça permet peut-être éventuellement de montrer aussi aux malveillants qui sont suivis, tracés et connus. C'est peut-être aussi un moyen de dire qu'ils ont été arrêtés. Ben voilà, en tout cas, ça montre une étude très intéressante proposée par cette agence gouvernementale française.
Ça se fait encore, c'est ça qui est terrible, qu'on est encore capable de vider les machines à argent, c'est juste fou.
Ben, ma femme est très forte pour ça. Je ne sais pas comment elle fait, mais...
Je me rappelle encore des Yes Cards que vous aviez en Europe.
Oh, les Yes Cards!
C'est malade, ça!
C'est fou, c'est la carte qui dit toujours oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est maintenant il y a une vingtaine d'années. C'était des cartes bancaires. Alors, il fallait les coder, il fallait les modifier, etc., de quelques petits éléments. Et vous mettiez un code de votre choix, 4-0, 1-2-3-4-5. Et vous les mettiez dans les distributeurs qui ne faisaient pas appel à la Banque de France. Ça veut dire que la carte ne faisait pas appel à la Banque de France pour savoir s'il y avait un compte ou non bien accessible. Mais quand les distributeurs étaient repérés par les pirates, et s'il avait possibilité de les repérer, eh bien, il était possible de soustraire soit de l'argent, mais surtout des données. J'ai souvenir de celui qui avait découvert ça. Il avait fait un exemple dans le métro où il avait pu acquérir des tickets de métro avec sa Yes Card. Donc, du coup, on achète des tickets de métro qu'on revend ensuite au noir, on a blanchi l'argent. Ça n'existe plus. Hein. Heureusement, il existe des cartes sans contact.
Trop facile.
Il y en a plein d'autres.
Ouais, c'est ça. Il y en a tout le temps une qui sort de là. Oh là là.
Puis là, revenons sur la réelle nouvelle sur l'Iran, dans ce cas-ci, est la bonne.
Oui, alors en fait, ça fait quelques mois que je suis des pirates qui se disent iraniens. Alors aujourd'hui, hein, ce n'est pas à vous qu'on va vous l'apprendre, mais se faire passer pour un Polonais, un Québécois, un Français ou je ne sais trop qui, c'est quand même pas plus compliqué. Sauf que ces populations-là, je les suis parce qu'elles ont commencé à diffuser il y a quelques semaines, quelques mois, des données qui, moi, je vais être très clair avec vous, m'ont mis sur le cul par rapport à des données, par exemple, de certains comptes Telegram ou certains comptes de ministère iranien. Et dans une discussion dernièrement, j'ai des jeunes. Alors, maintenant, je sais que c'était des jeunes, mais ça peut être des vieux qui sont passés pour des jeunes comme nous, hein, peu importe, mais qui commencent à converser. Et là, très clairement, je les ai contactés. Je me suis présenté. J'aurais dit, ben voilà, je suis Damien. Voilà ce que je fais. Je vous ai trouvé. Est-ce que je peux vous causer? Et donc, bah, si ça vous intéresse, l'interview est sur mon blog, et ça, c'est pas la question, c'est plutôt tout le cheminement intellectuel qu'il a fallu mettre en place pour juste leur poser 70 questions, pas une de plus. D'abord, je leur envoie un mail, ils ouvrent un Proton Mail, ok, j'envoie un Proton Mail. Là, ils me disent, ok, on se retrouve dans le Darknet via un site sur Tor, donc via un point oignon. Ok, j'y vais. Le site, c'est quoi? C'est écrire un texte qui se détruit toutes les minutes. Donc, vous avez vu comment je suis déjà manchot encore avec mes 10 doigts. Donc, j'écris mon texte que je traduis, que je renvoie sur un troisième site qui permet d'envoyer sur un chat privé et sécurisé ce que je viens de taper. Donc, comme j'ai un français, un anglais qui s'améliore. Si, si, mais on en reparlera dans 20 ans. Mais donc, le temps que je traduis correctement mon anglais, que je le mets dans le logiciel qui va chiffrer, que j'envoie sur la messagerie, j'ai pu poser que 70 questions parce que le temps que le message te renvoie me revient, ben voilà, c'est pour expliquer le cheminement. Et donc, l'intérêt de tout ça, c'est que ça montre que ça réfléchit fortement à comment sécuriser la communication, à comment la faire disparaître aussi. Donc, j'étais comme là, je faisais des captures écran, j'étais comme un fou furieux, je filmais mes mains pour garder des preuves, pour garder des éléments dans l'interview. Et donc, du coup, la finalité, c'est que je suis tombé sur une bande de jeunes, 15-20 ans, d'après ce qu'ils me racontent. J'en ai vraiment interviewé deux. Je pense qu'ils étaient au moins quatre. J'en suis sûr pour un qui est vraiment dans cette tranche-là, 15-20 ans. Ils m'ont montré des éléments qui m'ont prouvé, en tout cas, où ils se trouvaient dans les données qu'ils pouvaient leur parler de leur groupe, parce qu'ils étaient vraiment très, très fiers de leur groupe et d'être iraniens, donc dans du vocabulaire qu'on a pu parler autre que de l'informatique. Sauf qu'eux sont spécialisés dans le vol de données. Ils m'ont montré des bases de données, mais j'ai flippé parce que je me suis trouvé dans l'une d'elles. C'était comme ça. Moi qui casse ma vie à créer des mails, des mots de passe, etc., je suis dans l'une des bases de données qu'ils avaient et ils ont 171 millions de logs différents. Pour avoir analysé le temps que j'ai pu rester, parce qu'ils m'ont fait visiter. Hein. Les mecs n'avaient strictement peur de rien. Une fois que j'avais expliqué qui j'étais, etc., ils étaient vraiment... dans le fun, même si deux fois je me suis fait, moi j'appelle ça engueuler, disputer, en tout cas ils étaient en colère, c'est quand j'ai parlé de leur famille et quand j'ai commencé à dire « mais vous êtes manipulés, il y a des gens derrière vous ». Parce que je voulais les titiller un petit peu, on n'arrête pas de nous dire que le gouvernement iranien utilise des soldats numériques, etc. Ce qui est loin d'être impossible, attention. Hein. Mais eux très clairement non, ils m'ont dit « nous on fait ça pour le business, on a des PayPal, alors on se fait payer par des moyens autres que par le Bitcoin, et on fait ça parce que les joueurs, parce qu'ils s'intéressaient surtout aux gens dans le jeu vidéo, ils disent les gens sont des cons, très clairement hein, dans leur vocabulaire, ils sont complètement idiots, nous on se fait un business sur les idiots ». Et là franchement quand ils m'ont dit ça, je les ai bien aimés. Alors que pour cette réponse là, hein, je vais être très clair avec vous, mais les mecs ils ont tout compris. Ils jouent sur la bêtise, c'est ce style où Patrick en parlait tout à l'heure, ils jouent sur la fainéantise des gens. Continuez à être fainéants, rassurez-vous, on a les sept nains qui sont peut-être en Perse ou ailleurs, qui sont là avec leurs petites pelles sur la tête et qui font « Hey, on va vous pomper !» Et ils y vont à fond, hein. 171 millions de données, et je vous avoue, j'étais dedans. Ça m'a permis de trouver la source, du coup. Mais je vous cache pas, j'avais les fesses qui faisaient ça. Elle claquait parce que je me suis dit, what the fuck, comment ils ont réussi? Ben voilà, donc personne n'est à l'abri, soyons très clairs. Donc voilà, donc cette interview m'a intéressé parce que vous souvenez, on parlait souvent des scripts Kiddy. Moi, je me mets toujours, je suis toujours en colère, pas en colère, on s'en fout de ça. Mais
sont-tu des scripts Kiddy pour toi, ceux-là? Y a-tu bien des skills ou c'est juste des niaiseries avec du monde?
C'est de la niaiserie, c'est du script Kiddy qui a compris un business. Mais comme je disais la dernière fois, regardez, pour ceux qui sont à l'image, un script qui dit c'est ça, c'est mon doigt. Il fait pas de bruit quand il fait une bêtise, mais c'est un petit bruit. Là, ils sont cinq. Ça commence à être un petit peu plus bruyant. Quand j'ai 10 scripts qui dit, ils sont plus vénères et plus méchants et plus dangereux qu'une seule personne très douée. C'est pour ça. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment tous les mettre dans le même sac, parce qu'en plus, ils peuvent être recrutés. Hein. Donc, ta question est très, très pertinente, Patrick. Hein. On a des petites armées qui se forment sur Discord, sur Telegram, en jouant Call of Duty. C'est très intéressant. Bon, je joue énormément, pour ceux qui le savent, Zatas-CA. Est-ce qu'il veut me rejoindre ? Et c'est intéressant de voir que ça discute aussi dans certains lieux, dans les jeux vidéo, et ça prépare des coups, ça parle d'idées, etc. C'est vraiment pas un fantasme. Hein. Alors, on peut pas les retrouver. On n'a pas les pseudos, les mecs qui font tout n'importe quoi, surtout sur les jeux en ligne venus de Chine. Mais voilà. Donc, c'est de la niaiserie. C'est cinq personnes qui ont un petit savoir, mais cinq petits savoirs commencent à faire un savoir un peu plus important et qui leur apportent de l'argent. Alors, ils n'ont pas voulu me dire combien. Hein. Mais je vais vous dire, quand je suis tombé sur les 171 millions de logs, je me suis dit que même un cent, même un dollar, même un euro ou 10 centimes d'euro, ouais, on est bien. Hein.
Surtout dans ces coins de pays-là. Je vous ai essayé riche rapide. Là.
Ce qui était raison, hein. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a clairement, en tout cas, une population qui était intellectuellement avancée. Je vais pas être péjoratif sur le sujet, hein, mais je veux dire qu'ils avaient de la culture. Ils savaient ce qu'était le tunnel sous la Manche, par exemple. Ils avaient quelques notions du territoire québécois, j'entends géopolitique ou historique. Voilà, on avait vraiment des gens qui n'étaient pas en train de taper sur Google, hein, parce qu'on était il y a un moment, on a vraiment eu une discussion ouverte, parce que les phrases donc étaient très longues. Quand je leur ai expliqué que j'avais un anglais pas avancé, mais en tout cas qui était suffisant, mais en tout cas approximatif, et qu'il fallait aller doucement parce que leur système de sécurité allait trop vite pour le vieux monsieur que j'étais. Hein, je l'ai joué un peu comme ça. Et à un moment, on a eu une discussion, pas du tout de religion. On n'a pas du tout parlé de religion. On n'a pas du tout parlé aussi de l'anticapitalisme ou l'anti-américanisme, parce qu'ils me l'ont dit, hein, y a des cons partout. Peu importe, même chez eux. Et c'est pour ça qu'à un moment dans la discussion, on parle de tout et de rien, et je leur dis, oui, mais si vous volez des données de votre pays, et là, ils m'ont dit, mais nous, on n'est pas idiots, on ne veut pas finir dans nos prisons souterraines. Voilà.
Nicolas, j'ai une image pour toi là-dedans. C'était excellent, là. Nicolas, t'écoutes bien, tu vas comprendre. Ça, c'est les Elboniens de Delbert.
Voilà. Alors, si toi, tu n'es pas Canadien ou Québécois, t'as pas du tout compris la blague.
Oh, ouais, mais c'est très inside, ça, parce que personne n'a compris.
T'avais jamais lu Dilbert? Je l'ai pas compris non plus.
Caroline, vous avez tout raté, toute l'épopée de Dilbert. Caroline, c'est...
Tabernacle qu'une colisse.
Hey, pour moi, Dilbert, c'est une image, là. Fait que de le décrire là, comme ça en le disant.
OK. Il va falloir vous acheter la biographie de Scott Adams que Nicolas m'a prêté, à moins que Nicolas peut vous la faire parvenir. C'est une biographie qu'il a écrite, mais à partir du moment où il a commencé à travailler, et puis là, il a développé le gars des aptitudes intellectuelles vraiment fantastiques. Il a une vulgarisation spectaculaire sur le monde absurde du travail. Là, je parle des jobs brunes. Les jobs brunes, assurance, comptabilité, banque, tous les éléments qui font des piliers d'une société d'un point de vue monétaire, les absurdités fantastiques qu'il est capable de faire avec ça. J'irai pas plus loin là, pour prendre plus de temps. Je sais que Nicolas a compris l'inside. Lisez Scott Adams. Écoutez, c'est un livre de chevet. Je me souviens, je l'ai lu quand il me l'a prêté. Ça m'a pris deux soirs pour ne pas passer à travers. Je faisais juste pisser dans mes culottes. C'est spectaculaire.
Il faudra mettre le lien sur sécurité.fm, du coup.
Les anagrammes qu'il y a là-dedans, la façon dont on se reconnaît dans notre milieu de travail. Je ne parle pas juste des banques, notre milieu de travail en général. Wow. OK, j'ai fini.
Donc, il faut celui-là et l'art de la guerre. Comme ça, on fusionne les deux pour certaines populations, alors. Hein?
Ouais, ben je pense qu'on avait sorti même ce qu'on a dit, un livre comme ça, ou peu importe, là, je sortirai les références, je mettrai dans les show notes. Mais disons, c'est un regard très amusé sur la bureaucratie et encore plus sur le monde des TI dans lequel on vit plus ou moins proche nous autres. Oui, Steve?
Office Space résume pas mal tout ça, je crois.
Ouais. J'allais le dire! Ouais. Office Space, je pense que c'est la... un petit peu la filmographie Scott Adams de ses slides. Le monde du Weasel. Hein, Nicolas? Le monde du Weasel. Hey, quel bon film. Underdog.
Ouais. Ou sinon, vous prenez un contrat au gouvernement ou dans une compagnie bancaire et vous voyez la même chose.
Dans n'importe quelle bureaucratie, de toute façon. Et continuons, mais là, enchaînons vite sur la nouvelle de Steve sur le fait qu'il y a eu des rançons logicielles dans des hôpitaux privés en Europe.
C'est malheureux, mais ça se poursuit. Quand ça a commencé le COVID au mois de mars, ben, la République tchèque était pas mal dans la mire de ressortissants russes comme ukrainiens. Et ça s'est avéré vrai parce qu'il y a encore les Russes qui ont tapé en Tchécoslovaquie. Puis ça vient possiblement encore d'une genre de situation géopolitique, d'avoir démantelé une vieille relique de la guerre froide, donc de l'Union soviétique, puis que des sympathisants populaires s'en sont pris, pareil comme ils ont fait en Estonie. Mais tout ça, on vient avec cette situation-là d'une autre institution de la santé qui est prise à part avec du rançon logiciel inséré là-dedans. Et encore là, c'est de revenir avec l'idée comment ça se fait pourquoi ils s'y prennent avec ces établissements-là. La solution est simple. La réponse est simple parce que ils vont taper dans ces institutions pour aller chercher la grosse rançon parce qu'ils n'ont pas le temps de répondre et de répondre en disant on va régler ça par nous autres-mêmes, on va aller chercher les backups, on va réinstaller tout ça, puis en 2 semaines, on devrait être correct. Ils ont 2 heures pour récupérer parce qu'ils sont dans des systèmes, sont tellement critiques, sont sollicités, sur-sollicités, qu'on devrait dire. Et donc, ils vont se faire demander la grosse rançon. Ils vont à ce moment-là être pas mal tenus de donner la rançon pour retrouver l'accès au système rapidement. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ils vont venir souvent à la nouvelle mode du jour. Ils vont aller chercher les données. Puis après ça, ils vont encrypter. Puis ils vont relancer une autre rançon par-dessus ça. C'est pour ça qu'on martèle depuis quand même 2 mois ici dans les podcasts que les 6 admins doivent protéger les systèmes, revoir les postures de sécurité davantage pour empêcher ces genres de situations-là d'arriver. Il faut que ça soit prévenu et non pas juste être réactif par rapport à la situation présente.
Oui, et justement, tant qu'à parler d'être réactif, on va terminer avec une nouvelle justement sur le fait que Cisco a 12 vulnérabilités très élevées à corriger.
Ben oui, c'est sorti en fin de journée. Encore, les firewalls de Cisco, les ASA, tout ça, puis c'est quand même assez grave parce que c'est dans tout ce qui est dans le keying, donc les échanges de clés, c'est fondamental lorsqu'on veut établir du VPN et de la sécurité. Et moi, je suis très surpris encore là qu'il y a un paquet d'affaires. Puis Cisco, là, ça fait quand même, puis Pat, corrige-moi si je suis wrong, ça fait quand même une couple d'années là, que c'est des gros bugs. Là. Puis là, c'est évalué sur 9,1 sur 10 en termes de sensibilité de quand même ces bugs-là qui arrivent avec les équipements de protection d'avant-plan. Que beaucoup de compagnies mettent en place. Donc, encore une fois, sysadmin, faites vos évaluations d'usage, mais patchez ça rapidement parce qu'à ce moment-là, ça devient des portes d'entrée faciles.
Oui, exact. Puis ça fait à peu près 2 ans que c'est non-stop. Là. À chaque 2-3 mois, à peu près, il y a un release de vulnérabilité aussi intense que ça. Mais malheureusement, pour avoir vu la machine interne, je suis zéro surpris. C'est juste ça que je dis.
En même temps, ça a un rappel assez sévère qu'on ne peut pas se fier sur un seul fournisseur de produits de sécurité. Il faut qu'on ait plusieurs types de fournisseurs différents pour différents types de produits. Si un échoue, au moins, il va y en avoir d'autres qui vont être capables de relever parce que dans ce cas-ci, c'est ASA et Firepower. Donc, c'est quand même assez massif en termes de portée. Fait que si on est juste une shop 100% Cisco, on est un petit peu dans le trouble quand ce genre de problème-là arrive. Si on est une shop mixte avec plusieurs produits différents qui couvrent différents besoins de sécurité, on vient de mitiger un peu le risque, mettons.
Oui, c'est ça, jusqu'à ton endpoint. Tu sais, peut-être ton réseau, des firewalls de ta machine, tes serveurs, mais tes logs de ta machine. Tu sais, quand tu as toutes les étapes, la probabilité que tu détectes absolument rien, c'est parce que tu n'es pas chanceux et tu es une target de quelqu'un d'un state sponsor principalement. Là, je veux dire, rendu là. Tout le monde serait game over, mais sinon, tu sais, ça se détecte. Là. Récemment, on a fait du Purple Team et autres, là, où je travaille. Puis, je pense que la détection était du 95 et plus pour cent. Là. Mais comme tu dis, à vraiment plusieurs niveaux, si tu as juste un antivirus, ben, ça, c'est pas long à se bien passer. Là.
Puis, dernier point là-dessus, c'est qu'on retrouve ce genre d'équipement-là souvent dans des agences gouvernementales, pour ne pas dire des grosses compagnies, parce que c'est quand même du matériel à gros budget qui est déployé. C'est rare dans les PME qu'on va retrouver ces types de firewall-là, surtout les firepower. Fait que donc, qu'est-ce qui est en arrière? Autrement dit, le butin à les saisir, ben, il est quand même fort intéressant. Puis, généralement, ça, ceux et celles ben, qui vont vouloir s'essayer à essayer de les pénétrer, ça, la récompense est forte.
Ouais, hâte de voir l'exploit, combien de temps qu'il va être public, puis à quand qu'il va être détecté dans le wild plusieurs fois, là, rapidement.
Mais Talos sont là, ils quand même sont vite, eux autres.
Talos sont excellents, pour vrai. Là, oui, ils sont à l'intérieur de cette machine-là, mais c'est quelque chose de totalement différent. Mais en même temps, comme tu dis, vu que c'est dans des grandes entreprises de ce genre-là, parce que oui, le business model là, de ces machines-là, vu que ça coûte cher, c'est généralement de la grande entreprise, ça va être long à patcher, malheureusement. Ça va avec ça aussi.
Yep, ça risque fort bien d'être leur scénario.
Oui. Corriger vos affaires. Ça termine l'épisode d'aujourd'hui. Ça termine ce live.
Oh là là, Nicolas, il a eu du mal. On voit, il est l'heure. Si.
On va me coucher, il est tard. Eh non, d'habitude, je me couche beaucoup plus tard que ça. C'est juste parce que deux idées dans ma tête qui circulent en même temps, ça donne une collision à la sortie. Donc, ça termine ce live. Est-ce que vous avez des choses pour clore l'épisode, des petits mots de la fin?
Prenez soin de vous.
Il faut reparler de ce qu'on a dit au début. Parler aux élus pour les caméras et tout ce qui vous dérange. C'est un point que personne fait, là, à part Steve ici, je pense. Mais non, c'est bien, c'est pas une plainte. Mais on le fait pas assez. Le monde parle pas assez à ceux qu'on met en place pour décider. Et je pense que dans une crise de même, je pense que c'est le temps de pousser ça un peu plus loin que juste sur nos Facebook.
Et je peux vous affirmer que les politiciens sont contents d'accepter que la population lui parle. Parce que là, eux autres, ça lui donne des dossiers à suivre et des dossiers à présenter puis à débattre. Donc, gênez-vous pas. Municipal, provincial, fédéral, ils sont là pour vous servir parce qu'ils travaillent avec nos impôts et c'est comme ça que ça devrait marcher dans notre société. Fait que donc, soyez polis, soyez courtois, documentez et rapportez-là les événements qui vous pèsent sur la tête, surtout les débats technologiques demain. Ben, on va être capable à ce moment-là d'avoir un peu de sens à un moment donné.
Puis en pénurie de Kraft Dinner, rabattez-vous sur les pizzas pochettes.
Hein, c'est toujours gagnant.
C'est ce que j'ai fait.
J'aimerais dire à tout le monde aussi qu'il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui disant qu'il y a trop de patates de produits au Canada. Fait qu'il faut manger plus de poutine, messieurs, je suis désolé.
J'accepte, je valide. Oh. Faites péter la poutine.
À la prochaine.
Tchuss!
Ciao!